France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Vous conservez sans doute dans un grenier ou une cave des documents ou des objets datant de la guerre 14-18, des carnets, des dessins, des lettres, des photos. Surtout, ne les laissez pas s'abîmer au fond d'une vieille malle. Ils peuvent enrichir l'histoire de ce conflit. C'est pour cela qu'une grande collecte est organisée à partir d'aujourd'hui par les Archives de France. Bonjour Clémentine Vidal-Naquet.
Bonjour.
Vous êtes historienne spécialiste de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est pas la première fois qu'une telle collecte est organisée. Il y en a déjà eu en 2013 et en 2014. Et vous en avez fait un livre, un très gros livre qui vient de sortir, La Grande Guerre des Français, à travers les archives de la Grande Collecte. Qu'apportent de plus ces archives familiales? Elles nous donnent un autre regard sur cette guerre?
Oui, en fait, ces archives familiales, elles nous permettent d'entrer au cœur du conflit, je pense, par les relations intimes, les relations familiales, qui disent aussi beaucoup sur l'impact de la Grande Guerre, sur les expériences vécues il y a maintenant 100 ans.
Oui, parce que ça ne concerne pas que les soldats. Il y a évidemment beaucoup de choses, beaucoup de lettres de soldats, leurs carnets de guerre, leurs carnets militaires. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus.
Non, il y a énormément. L'essentiel du livre se compose de correspondances, donc des liens échangés entre le front et l'arrière. Et donc on a aussi une vision assez complète de ce que furent les quotidiens des familles, des enfants, des femmes.
Les souffrances, les manques.
Et oui, des personnes âgées aussi qui restent à l'arrière. Tout cela est présent et est accessible grâce à ces grandes collectes.
Grâce à ces grandes collectes. Donc il y en a déjà eu deux. Mmh. Plus de 20 000 Français ont déjà participé à ces deux collectes. Vous avez eu quoi? Plus de 300 000 documents, j'ai lu, c'est ça?
Oui, ce fut un succès assez considérable, ce qui explique d'ailleurs la dernière grande collecte sur la Grande Guerre qui commence aujourd'hui.
Vous pensez qu'il y a encore des secrets cachés?
Je suis persuadée qu'il y a encore des secrets. Je continue à en trouver. On m'en donne encore. Il faudrait. Moi, j'invite les personnes qui ne savent pas trop quoi faire et qui ont peur aussi que ces trésors se perdent au fur et à mesure avec la succession des générations, de les déposer dans les centres d'archives ou au moins de les faire numériser pour les sauvegarder.
Comment expliquez-vous ce succès de ces collectes, le succès de ces collectes?
Moi, je pense que ce que ce succès montre, c'est la très grande présence encore de la Grande Guerre au sein des familles et dans les histoires familiales individuelles. C'est, je crois, la grande leçon des grandes collectes 2013-2014 et je suis à peu près persuadée qu'elle va être confirmée avec cette grande collecte 2018.
Plus pour cette guerre que pour une autre?
Ah, ça, je n'en sais rien.
Seconde Guerre mondiale ou
je ne pense pas. Je pense que nous avons tous peut-être des trésors pour d'autres périodes. Simplement, ce qu'il y a de particulier avec la Grande Guerre, c'est tout de même la très longue durée de la guerre et les échanges massifs de courriers pour la première fois dans l'histoire. Je rappelle que par jour en France, 6 millions de lettres sont échangées entre le front et l'arrière, ce qui est considérable et c'est une moyenne quotidienne. Donc vous imaginez un petit peu la masse des courriers, bien sûr perdus, mais aussi qui restent certainement dans les familles encore aujourd'hui.
C'est ce que vous avez écrit d'ailleurs dans la préface de ce livre. Partout et dès les premiers jours du conflit, la guerre s'écrit, elle est photographiée aussi. Donc c'est une mine d'informations inestimable pour vous, pour les historiens.
Oui, moi je crois que le premier geste d'accommodement à l'état de guerre, c'est l'écriture. Et que au moment où on entre en guerre en août 1914, eh bien le premier geste des combattants et de leurs familles, c'est des promesses, nous écrirons, puisque je rappelle que là c'est la première génération qui sait écrire, et il y a une mobilisation massive et tout le monde, toutes les classes sociales, même si c'est très approximatif pour certains, peuvent prendre la plume et écrire, ce qui est tout à fait neuf et ce qui, pour nous, est une source incroyable de connaissances, puisque tout le monde décrit ses gestes, ses émotions, ses sentiments, ses peurs.
Et ça jusqu'à la fin du conflit, même au début, quand on part, on se rend pas forcément compte de ce que va être cette guerre, mais au bout de 3-4 années d'horreur, de choses qui ont été vécues, les gens continuent à écrire.
Ah oui, ils continuent à écrire parce que la première fonction de la lettre, c'est d'être gage de vie. Quand on est combattant, on connaît et on sait l'importance de ces courriers quotidiens qui sont attendus à l'arrière. Vous imaginez avec quelle attente et la puissance de l'attente de la lettre. Donc oui, ça continue pas. Bien sûr, il y a parfois des essoufflements de ce pacte épistolaire parce que c'est difficile de savoir toujours se raconter. Mais on écrit même pour dire la même chose. Et puis il y a une entrée en introspection aussi puisque c'est quelque chose de très nouveau, de prendre la plume, d'écrire, de se raconter. Et donc pendant ces 4 années, je crois qu'on a aussi découvert cette façon de se raconter.
Alors, on parle beaucoup des lettres, hein, mais il y a beaucoup plus que ça. Hein. Ce ne sont pas les seuls documents que les gens vous ont apportés. Mmh. Il y a plein de choses, des photos, des tracts, des affiches, des croquis, des carnets de chant. Mmh. C'est vraiment super riche.
Oui, et puis il y a aussi des objets. C'est-à-dire que dans les 200 000 personnes qui sont venues, les milliers de personnes, pardon, qui sont venues déposer des objets, il y avait justement des objets matériels, c'est-à-dire des casques, des porte-plumes, parfois on faisait la queue pour déposer un seul objet, mais qui disait aussi beaucoup sur la matérialité de la guerre, l'artisanat des tranchées aussi, il y a énormément d'objets de
quoi,
ce type.
Quoi, par exemple?
Par exemple, des classiques, hein, des douilles d'obus gravées, des bagues fabriquées à partir d'aluminium, des fusées d'obus qu'on envoyait à l'arrière aux femmes, aux mères, aux sœurs, mais aussi beaucoup d'ingéniosité de la part des soldats. Je note par exemple l'un d'entre eux qui écrit à sa femme et à ses enfants sur une écorce de bouleau. Et donc beaucoup de délicatesse aussi dans les gestes, beaucoup de recherche qui contraste évidemment avec l'extrême violence du front. Et qui est assez touchant.
Et un objet aussi particulièrement touchant et mouvant même, hein, ce portefeuille troué par les balles.
Oui, et qui est le marque de la blessure, et à l'intérieur de ce portefeuille, des photographies de l'enfant, du couple, marquées aussi par l'éclat. Alors là, c'est un combattant qui a la chance de survivre, qui est juste blessé, On sait aussi les traumatismes de la blessure, et de ce que cela a provoqué.
Donc si on a des petits trésors chez soi, à qui on s'adresse?
Alors on va dans les archives partenaires de la Grande Collecte et on dépose.
Il y en a quasiment partout en France?
Je crois qu'il y en a quasiment partout. Ouais. Il faut regarder un peu sur le site Grande Collecte.
Lagrandecollecte.fr.
Ouais. Voilà.
Et vous pouvez tout récupérer, tout a une importance, même si on a une chose à la maison, une seule chose, ça vaut le coup quand même?
Moi je suis historienne, alors je vais vous dire que oui, tout a une importance parce que... tout objet d'histoire doit être, à mon avis, conservé, en tout cas dans la mesure du possible, et qu'on ne sait jamais en fait quels sont les sujets qui vont apparaître et qui vont sembler importants pour nous historiens maintenant, mais aussi pour les historiens à venir et qui pourront s'emparer de ces objets, de ces documents.
Mais ces objets, on vous les donne ou ils sont juste numérisés et après on les récupère?
Ça dépend, les familles peuvent soit les donner, faire des dons aux archives, soit les déposer, c'est-à-dire en fait ils détiennent les objets mais ils les laissent à disposition, soit les faire numériser. Donc vous pouvez aussi repartir avec vos objets si vous n'y tenez trop.
Et ça dure donc toute la semaine?
Toute la semaine, exactement.
Le but de cette collecte, hein, c'est à la fois, vous le disiez, ne pas perdre cette trace, hein, ces morceaux d'histoire qui cumulés racontent une grande histoire. C'est aussi donc de raconter une autre histoire, mais aussi de rendre la guerre concrète. C'est ce que l'on peut lire aussi dans les préfaces, hein, parce qu'il y a plusieurs préfaces qui ont été écrites par différentes personnes. Rendre la guerre concrète, on en a besoin encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est que la guerre.
Non, je crois qu'on ne sait plus bien ce que c'est que la guerre. Et je crois que l'enjeu justement de cette grande... Alors, ce n'est pas l'enjeu de la grande collecte, c'est aussi ce qu'on fait de ces histoires et de ces objets déposés.
Il y a des expositions, des
exactement,
choses comme ça.
C'est d'essayer de voir jusqu'à quelle profondeur la guerre agit sur les individus. Et il me semble que c'est par les histoires individuelles, concrètes, en regardant des histoires de familles éclatées, des espoirs déçus, le deuil survenir, qu'on peut... prendre conscience, et il me semble qu'aujourd'hui, il est très très important de prendre conscience de ce que c'est concrètement la guerre.
Surtout pour les plus jeunes.
Surtout pour les plus jeunes, et puis pour nous également.
Merci beaucoup Clémentine Vidal-Naquet d'être venue ce matin à France Inter avec ce très beau livre, La Grande Guerre des Français, à travers les archives de la Grande Collecte. Vous étiez l'invité du 5-7.